la, aujourd'hui c'est ouvert à Doha, donc la conférence sur l'OMC au Qatar. Vous faites de la déconnexion de la sphère réelle avec la sphère de la spéculation financière un des fers de lance de votre programme. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un petit peu complexe à faire entendre à l'électeur?
C'est complexe, mais...
Et en même temps, il y a une espèce de résonance avec tout le mouvement attaque.
Oui, absolument.
Vous aider à
mais le problème du mouvement attaque, c'est ce que certains ont dit. Ils disent que ce que je dis est trop compliqué, qu'il faut avoir des formules simples comme la taxe Tobin ou la taxe sur les mouvements spéculatifs de capitaux. Ils ne veulent pas l'appeler taxe Tobin, maintenant que Tobin a dit qu'il n'était pas d'accord. Donc, cette taxe, mais ça ne sert à rien, c'est inapplicable. Ça ne sert à rien d'abord parce que c'est trop tard pour taxer le vice. Le vice, il est partout dans le système financier et monétaire. Il faut au contraire, comme dirait à tort certains généraux algériens, l'éradiquer, ce vice au moins financier et monétaire, pas les pauvres gens qui se battent, mais le vice financier et monétaire. Et il faut pour ça que les États reprennent le contrôle des choses. On vous impose partout des lois. Ces mêmes États-Unis qui sont en train, on vous impose partout des lois dans les domaines de liberté publique, dans les domaines sociaux. C'est-à-dire ces mêmes États-Unis qui disent aucune loi, loi de la jungle, dans l'ordre financier et monétaire, parce que ça empêche l'initiative. Ils sont prêts à réappliquer éventuellement ou envisager d'appliquer la torture vis-à-vis d'individus pour les faire avouer. C'est quand même effarant quand on le pense. Puis on multiplie les lois qui entravent la capacité de créer, la capacité de comprendre, de connaître des individus. C'est là qu'il y a un problème gravissime aujourd'hui.
Et attaque, moi je trouve ça très intéressant par rapport à attaque, parce qu'attaque aide.
Non.
Il n'y a pas que attaque, il y a d'autres mouvements qui
vont
pour la mondialisation.
C'est vrai.
Et puis c'est devenu un sujet, tout le monde en parle, donc les gens ne savent pas vraiment ce que c'est. Mais vous, attaque, vous les connaissez, vous travaillez avec eux des
Oui, mais attaque, c'est un très drôle de mouvement. Ils ont créé un conseil au départ qui un peu bloque les choses. Les gens d'attaque de la base sont en train de s'en apercevoir parce qu'ils veulent, ils ont voulu complètement contrôler les choses. Et nous, on apparaît comme une chose pour eux, je ne sais pas, j'essaie de me mettre dans leur tête, étrange et qui risque d'apporter des idées qui peuvent beaucoup, beaucoup intéresser les gens qui ont la sensibilité d'attaque. C'est-à-dire, c'est d'une part des jeunes et d'autre part des 68ards déçus. C'est-à-dire, on peut faire ça à la clientèle d'attaque ou les gens qui sont prêts à militer pour attaque. Alors, par rapport à ça, vous avez d'autres choses qui se présentent de tous côtés dans l'attaque, qui grouillent, qui magouillent, et qui est une direction figée. Même Bernard Cassen, qui a dit qu'il ne se représenterait jamais, maintenant envisage de se présenter. Donc, bon, il y a cette espèce de double comportement. Et nous, disons, c'est simple. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut un horizon. Cet horizon doit être celui de faire, pas une réforme, une mutation, un changement de système financier et monétaire international. On se tourne vers le passé, quels exemples? Bretton Woods, imparfait mais utile. Et puis d'autres moments dans l'histoire où on a dit, voilà, on tire un trait sur les intérêts spéculatifs, on les met en règlement judiciaire entre guillemets, et puis on réoriente l'argent vers la production par des grands projets, mais ça peut être fait que par des États. Il faut que les États se mettent ensemble. Et pour ça, ça pose le problème de la politique intérieure à différents États. C'est pour ça que je suis candidat à cette élection présidentielle, pour poser le débat sur la table. Et c'est ça qu'on n'aime pas, parce que les gens qui sont en place, aujourd'hui, peu ou prou, ont fait des compromis avec ce qu'on appelle les marchés, à titre tout à fait imparfait, parce que ça a une tête, les marchés, ça a des... c'est Lazare, c'est Lehman Brothers, c'est le Crédit Agricole, c'est différentes choses de ce type, les marchés. Et puis c'est des gens qui pensent en fonction de ces marchés et qui, pour qu'ils puissent continuer dans leur esprit éternellement, ils doivent ce qu'avait fait l'oligarchie anglaise ou le milieu autour de la monarchie anglaise, diviser pour régner. Et maintenant, ce qui est en train d'arriver, c'est qu'on essaye de réappliquer une politique de type colonial, de diviser pour régner, et de créer un chaos, une confusion, à l'échelle du monde. Pour ça, il faut être très clair pour s'opposer à ça. C'est pour ça que le message qu'on propage auprès d'attaque, c'est de dire, il faut que vous soyez clair. Regardez, si vous admettez, parmi les gens autour de vous, et qui vous financent, Teddy Goldsmith, qui écrit L'écologiste. Bon, ça c'est terrible, c'est l'écologisme que moi j'attaque violemment. Parce que Teddy Goldsmith est en train de dire il faut revenir à des relations de type ville-campagne et oublier l'État. Même en Angleterre, ils ont émis une sorte de billet qui permet de faire relation ville-campagne, ce qui est très différent de celle. Hein. Celle, c'est une entraide au niveau local qui, elle, est légitime. Mais là, non. Là, ils le présentent comme un système référence par rapport à l'État. C'est là que ça commence à déraper sérieusement. Puis, Teddy Goldsmith et les gens qui sont autour de lui disent la faute, c'est la faute au nucléaire, c'est la faute aux OGM. Moi, je dis non, c'est catastrophique d'aller contre les installations d'études des OGM faites par la puissance publique. Que Monsanto fasse un sale truc là et qu'on l'attaque, peut-être. Oui, mais pas une installation de la puissance publique qui essaie de voir comment ça va. Qu'on pose le problème, est-ce qu'on doit faire des essais sur les OGM simplement dans les serres et sous contrôle ou dans la nature, ça c'est un problème légitime, et de voir comment on doit le faire. Mais donner l'illusion que la faute est au produit, ou la faute est une chose, c'est détourner, à mon avis, des responsabilités sociales derrière. Et c'est ce que toute la critique de Marx, qui était correcte de ce point de vue au XIXe siècle, disait que les ludites et les canuts de Lyon, qui s'attaquaient aux machines, c'était des gens qui se faisaient les pros, par leurs pros, qui étaient victimes de provocations, et qui se faisaient les collaborateurs des puissances en place. Et je pense qu'aujourd'hui, ce phénomène se produit, y compris à l'intérieur d'attaque, lorsque des gens comme Teddy Goldsmith peuvent opérer, qu'on les laisse opérer.
Très intéressant. Moi, je voudrais, vous avez parlé de votre motivation pour la campagne. Vous aimez cette idée d'une campagne présidentielle où on vient poser un débat. Pourquoi vous êtes là?
Non, je n'aime pas particulièrement. Je suis là simplement, j'aime toutes les campagnes, je voudrais que chacun des militants puisse faire campagne. On n'a pas le fric. Et le fric, en France, c'est la règle du jeu. De l'organisation de la vie politique. Si vous regardez, c'est entièrement contrôlé par l'argent. Pour une campagne présidentielle, c'est plus ouvert. Pourquoi ? Parce que, qu'on l'aime ou pas, De Gaulle avait prévu ainsi. Et là, avec 500 signatures maintenant, à l'origine, il en fallait 100, et je crois même la première fois, il en fallait 30.
C'est ce que vous dites, oui.
Donc, maintenant, c'est 500. C'est plus difficile, mais d'accord, pourquoi pas. Moi, ce qui me gêne, c'est ce qui est autour. C'est-à-dire, on vous dit 500 signatures. Alors, maintenant, il y a tout un débat sur est-ce que vous les avez ou pas.
Oui.
On les a pas, personne les a. Parce que ce qu'on peut avoir, c'est des promesses de signatures. Le document officiel n'est adressé que, je crois, début mars. C'est-à-dire, environ un mois et demi avant la campagne réelle. Et on vit sur la fiction que la campagne réelle dure 15 jours. Ce qui est absolument aberrant, puisque... Et le système est totalement hypocrite, et la France est un pays assez hypocrite, très hypocrite, si vous me permettez de l'ajouter. Et c'est un pays où on dit, pour les frais de campagne, ça commence un an avant. On dit quand même, c'est curieux cette campagne. Pour les maires, ils reçoivent les formulaires un mois et demi avant. La campagne, elle dure 15 jours, mais les frais de campagne, c'est un an avant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, d'abord ça. Ensuite, auparavant, dans le système plus juste, on avançait, si on avait réuni les 500 signatures, 3 millions de candidats. Maintenant, Pasqua, M. Pasqua, qui était ministre de l'Intérieur, dans sa très grande moralité, a dit que peut-être on pouvait s'enrichir par la vie politique.
N'est-ce pas ?
Et il a réduit ça à 1 million. Bon, c'est assez étrange. Donc ça permet aux partis en place d'avoir leur somme et à un nouveau de rendre beaucoup plus difficile de percer. Ça, c'est pour les présidentielles. Et on pourrait encore en parler de beaucoup. Maintenant, pour vous dire une autre chose... On a fait une disposition sur les partis émergents en France, pour les petits partis, en 1995. Et on a décidé, voilà, ils auront, pour 1 million qu'ils auront recueillis, 2 millions de l'État. À condition qu'ils présentent dans plus de 30 départements, 10 000 dons, et dont 500 d'élus. Alors, drôle de condition pour un parti émergent. Nous, on a pensé qu'on pouvait les réunir, ces conditions. Mais, on nous a dit, ah mais les 10 000 dons peuvent pas être faits en cash, en liquidité. Nous on a dit, oui, mais en liquidité avec la signature et le domicile de la personne. Dit, non. Alors, on peut pas, mais il y a des gens qui n'ont pas de chèque, des gens qui ne peuvent pas faire virement. Donc, d'abord, ceux-là sont exclus, c'est considéré presque naturel. C'est le don au sens du code des impôts, ce qui est quand même curieux, on applique ça à la vie politique. Alors on dit, oui, mais c'est par souci moral pour bien pouvoir identifier. Bon, peut-être, d'accord. Mais alors à ce moment-là, pour avoir 10 000 dons, c'est drôlement difficile. Et dont 500 d'élus, c'est relativement plus facile. Parce qu'ils admettaient les conseillers municipaux. Mais 10 000 dons, et cette loi pour les partis émergents, elle a bénéficié à deux partis émergents. C'est assez curieux de les appeler émergents à l'époque. L'un, c'est le mouvement pour la France de Philippe de Villiers, et l'autre, c'est la Ligue communiste révolutionnaire de Krivine. Quand même, ils ne sont pas tellement émergents. Ils sont actifs depuis, je sais pas, 30 ans dans la vie politique française. Alors, ils l'ont eu en 95 et 96, et puis après, ils sont passés dans l'autre loi. Alors, l'autre loi qui est simplement scandaleuse, qui est, on a 526 millions en France, et on a dit, on a moralisé. Il y a 526 millions de l'État pour les partis, et les entreprises ne peuvent plus verser d'argent. Mais ces 526 millions, à qui ils vont? Pour moitié, et en proportion de leurs élus, aux partis qui ont des élus à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc, ceux qui sont dedans. Et pour l'autre moitié de 526 millions, c'est au prorata du nombre de voix obtenues lorsqu'on a pu présenter plus de 50 candidats législatifs. Sachant que chaque candidature coûte 50 000 francs, minimum, hein, les autres dépensent beaucoup, beaucoup plus, les grands partis, beaucoup plus, infiniment plus, en officiel et au noir. Donc 50 000 francs multiplié par 50, ça fait quand même 2,5 millions. Ça, c'est pas pour un parti émergent, c'est déjà une somme énorme. Donc on dit, voilà, il y a ce système, donc, il y a le système des partis émergents qui viennent de tomber en désuétude, donc les petits partis n'ont plus rien. Sauf, alors on vous dit, mais oui, vous avez bien de la chance, pour chaque don que vous avez, la personne peut déduire 50% de ce don de ses impôts, et jusqu'à, je crois que c'est 6% maintenant, du montant de ses impôts. Bon, d'abord, c'est pas tellement, et en plus, c'est injuste pour ceux qui ne paient pas d'impôts. Et il y en a beaucoup en France, de gens qui paient 50%. À cela, l'État, puisque c'est à la mode, devrait faire une contrepartie de ce que les autres ont et ce qu'eux n'ont pas. Lorsqu'ils font un don à un parti, l'État devrait leur donner de l'argent pour compenser ce don. Ça, c'est pas du tout prévu. Donc ça montre bien que le système est, dans ce cas, comme dans celui des dons sous forme de chèques, code des impôts, ça montre bien que le système n'a pas du tout, par nature, pensé aux exclus. Ils sont fous. C'est terrible.
Alors, comment vous faites alors si, comment vous faites, qui sont vos militants? Comment vous faites pour animer les campagnes
C'est très difficile parce que organiser une réunion, c'est déjà. Oui, on essaye d'utiliser Internet depuis 3 ou 4 ans. C'est difficile de se faire connaître, de se faire référencer. Ça vient d'un coup, hein, Internet, comme vous savez. Ça peut durer 4-5 ans sans rien, puis pouf, ça marche. Il faut quelqu'un qui puisse s'en occuper. C'est assez lourd. Quelqu'un qui puisse changer constamment les choses. Internet, il faut changer constamment les choses. C'est quelque chose de vivant, un organisme vivant qui crée l'interactivité. Il faut s'en occuper, il faut le suivre. Donc c'est assez lourd, mais on essaye de le faire de plus en plus. Ça, c'est une possibilité. L'autre, c'est d'avoir des tables dans la rue sur ces tables, d'avoir des documents que les gens achètent et d'agiter un peu les gens là où on se trouve. Il y a relativement peu de militants aujourd'hui en France, dans l'ensemble des partis, et c'est un des drames de ce système qui se concentre sur quelques têtes. On se plaint, c'est toujours les mêmes têtes. Mais tout le système est fait pour que ce soit toujours les mêmes têtes, on ne va pas se plaindre. Tout fonctionne en réseau et tout fonctionne par rapport aux gens en place, d'une part. Puis, d'autre part, les gens y vont de moins en moins quand ils voient ça. Aujourd'hui, moi, j'ai évalué, j'en parlais à un député communiste hier, il m'a dit, nous, on a affiché 150 000 personnes parmi nos cotisants. Si on en a 50 000, on serait déjà content, en réalité. Et les autres, c'est pareil. Le RPR, quand ils ont organisé leur élection de Lyon-Marie, ils ont eu 50 000 votants, puis ils ont gonflé un peu les choses, ils sont arrivés à 75 000. Mais c'est très peu. Si vous faites la somme de tous les gens à jour de leur cotisation, de tous les partis politiques français, on arrive à peu près à 400 000 personnes. Il n'y a plus de vie politique en France. Si vous regardez les syndicats, c'est à peu près, je crois qu'on doit être, en comptant le public, à 8 ou 9% de gens syndiqués, et si on compte pas le public et on prend que le privé, on est à 4%. Donc, il n'y a plus de vie syndicale non plus. Où est la République, où est la démocratie? Il n'y en a plus. Et on a créé un système qui l'exclut. Financier et monétaire, et de financement de la vie politique, et aussi des syndicats. C'est un secret pour personne que 25% seulement des ressources des syndicats viennent de leurs cotisations, les dons et leurs militants. Le reste, et encore, c'est probablement beaucoup plus, vient de différentes complaisances dont le système a commencé en 1945. Et qui après s'est aggravé de plus en plus.
Bon, essayer de les acheter et les tenir. Monsieur Cheminade, nous parlerons volontiers toute la journée avec vous. Peut-être que vous, vous avez un emploi du temps, je ne voudrais pas trop abuser de votre temps. Mais sinon, moi, j'ai encore plein de questions pour vous.
Allez-y, on a encore, quelle heure est-il? Vous, si vous avez le temps, il y a 11h, 11h10.
11h10, bon, alors, 20, allez, 20 minutes.
40 minutes.
Tu vas changer de cassette?
Oui, oui, achète une bouteille d'eau. C'est horrible. C'est stoïque.
Mais nous, on a besoin de plus.
C'est parablésien.
Non, mais en même temps, ça montre aussi qu'à la fin de.
On dirait le début d'un film d'Éric Rohmer. Vieux jeu.
Vous avez un programme vidéo, un truc. Si vous avez les 500 signatures, je pense que vous êtes en bonne voie. Non, je me sens assez confiant.
On est en bonne voie, on est en meilleure voie que l'autre fois là, quand on les a eus. Mais on ne peut jamais dire, vous savez, je ne sais pas. Les gens ont signé, nous ce qu'on fait signer. On fait signer une promesse sur l'honneur, et le maire, naturellement, parce qu'il est habitué, met son tampon de mairie dessus. Donc.
Les maires, quand la signature ?
C'est ça, c'est une très bonne question. La chute est à peu près, disons la dernière fois, c'est 15%. Donc il ne faut pas obtenir 500 promesses, il faut obtenir 500 plus 15%, c'est-à-dire 650 en gros. Or, actuellement, si vous regardez l'ensemble des candidats, je doute que beaucoup aient dépassé 300.
Et sinon, il y a une continuité sur les différentes élections que vous êtes présentées, vous allez chercher à avoir les signatures en 88, oui, que vous n'avez pas eues. Vous les avez eu en 95.
On a très peu cherché, hein, 88, soyons
si
honnêtes.
Il y a une continuité, il y a des gens qui vous assurent à nouveau leur confiance.
C'est une chose qu'on ignore généralement, ça aussi. Il y a les élections municipales, il y en a deux qui se sont déroulées depuis. La première a été 45 ans, puis 35. Donc ça fait quand même que sur les 546 qui ont signé, ils ont resté d'abord, la première, ils ont resté à peu près 300. Et la deuxième, il en reste à peu près un peu moins de 200. Probablement moins encore, parce qu'elle est décès, parce qu'elle a l'âge. Donc, mettons au mieux 150. Sur cela, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a une vingtaine pour l'instant qui ont re-signé, 5 ou 6 qui ont adhéré au parti, et sur cela, un certain nombre en parlent autour d'eux. Donc oui, il y a un petit réseau de fidélité. De gens plus intéressés. Oui, il y a deux types de personnes, même trois qui signent. La première signe, c'est la plus intéressante, parce qu'elle s'intéresse quelque part aux idées. Donc c'est un peu plus qu'un parrainage. La deuxième signe, parce qu'il faut que la démocratie soit respectée, ou un petit candidat, ils aiment ça, ils signent. La troisième, c'est des gens qui signent parce qu'ils sont prêts à signer comme ça, parce qu'ils signent. Bon, ça on en a beaucoup, beaucoup moins maintenant. Ce qu'on a beaucoup plus, c'est des gens intéressés. Ça c'est ce qui est très différent dans cette élection. Plus intéressés aux idées, avec lesquels on a une discussion de 3 heures. C'est-à-dire que ce qu'on fait, on les appelle, on leur envoie des documents, et ensuite on va les voir. C'est-à-dire que c'est lourd, hein, comme procédure.
Qu'est-ce que vous leur dites pour les motiver?
Il y a un point fondamental qui est cette crise financière et monétaire, que les candidats n'en parlent pas, et que si on n'en parle pas, ben, on ne parle pas de ce qui est essentiel. On est en train de raconter un peu n'importe quoi, puisqu'on ne parle pas du point fondamental. Et qu'il y a une nécessité de rénover la vie politique en France, que le système de financement des partis politiques est inique, ça ils le savent parce qu'ils l'ont vu de près, et qu'il faut rouvrir le jeu, et qu'il doit voir si la manière dont nous on le rouvre les intéresse ou pas. Et à ce moment-là, on leur explique les différents points du programme. Ça va en profondeur, hein. Plus qu'en 95, c'est-à-dire l'exigence de la part des maires est plus grande qu'en 95, et on voit une nouvelle génération de gens qui ont entre, disons, 35 et 55 ans, en gros, qui sont beaucoup moins les agriculteurs d'un certain âge qu'on voyait à une époque, très expérimentés, et qui souvent avaient été élus dans les années 60, 70 et 80. Maintenant, on voit beaucoup plus de gens plutôt du type gestionnaire, entrepreneur, syndicaliste. Plus ce type-là.
Et M. Chaïfou me disait également qu'il avait ressenti que les partis étaient partis plus vite et plus tôt à la recherche de ces signatures.
Les grands partis, mais.
Pas les grands.
Les gens sont aperçus qu'on les avait eus l'autre fois et ont voulu faire comme nous. D'accord. Mais pour beaucoup, ça marche pas, parce que, par exemple, je crois que c'est un secret, c'est pas un secret, quelqu'un comme Brice Lalonde, ne le nommons pas, mais c'est parfois utile de nommer les choses, a une équipe téléphonique, mais faite de jeunes filles, ou de jeunes gens qu'il a réunis sur les bases d'une alimentation financière mensuelle. C'est pas des militants, quoi. C'est des gens qui appellent et puis qui se réfèrent à lui. Mais ils appellent 3 minutes et ils ont un texte à partir duquel ils parlent. Nous, c'est pas du tout ça. Moi, je veux pas du tout ça. Je veux pas qu'il y ait on arrive à avoir un argumentaire, mais pas écrit. Les gens doivent par eux-mêmes l'avoir présent dans leur esprit. Je crois que c'est le cas de chacun d'entre nous. Et les 10 personnes qui appellent les maires, ils les appellent pas toutes de la même manière. Avec les mêmes idées, mais pas avec le même style, pas avec la même forme, et ont une très grande liberté d'organiser leur affaire comme ils l'entendent. Pas sur les idées, sur le fond des idées, au contraire, c'est très rigoureux, mais sur la forme.
On fait une petite pause d'une seconde, on boit un petit verre d'eau, et puis après, si vous voulez, on va poser 2-3 petites questions.
Voilà,
un petit peu nouvelles. Voilà.
Vitel et pas.
Brice Lalonde, là, pendant qu'on y est, qu'est-ce qu'il nous fait là?
En off.
En off, là. C'est quoi ce parti des bleus, là? Vous avez vu son site? Allez voir son site internet.
J'ai pas vu, non. Tu as vu, toi? Non, on a vu seulement. Non, je dois dire, quelqu'un qui n'a pas du tout mes idées, mais pas du tout, mais qui a un site internet intéressant, c'est Madelin. Lui, il est au courant de ces nouvelles technologies, donc il a dû bidouiller ça. C'est pas mal, son site, c'est un peu...
On les a chroniqués tous.
Il y a son quiz qui est un peu con, mais...
Son quiz de Kikadi, là.
Bon, oui, c'est con, c'est un peu débile, bon.
Mais pourquoi pas, c'est rigolo.
Mais c'est rigolo. Dans son site, et son cheminement est indigérable, il est gros, il y a des choses partout. Ah oui, c'est...
Le nôtre aussi est... J'ai chroniqué,
mais mieux présenté.
Je veux dire, en disant... Dis-moi comment est ton site, je te dirai qui tu es. C'est un peu ça, cheminement, son site est un peu à son image.
Oui,
Le vôtre fait partie de, moi, ce qui me semble, des sites informatifs. On sent que celui qui l'a fait connaît Internet. Je ne sais pas qui a fait Rice.
Il ne connaît pas Internet. Vous voyez, on développe des compétences. Il ne connaissait pas Internet. Il est venu.
Je trouve que c'est un site qui est adapté à Internet. On en parle.
Calme, compétent, développant ces choses. Plein d'idées.
Et puis c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a accès à votre projet. C'est peut-être un peu pour ça aujourd'hui que nous. Bon, moi, je vous dis, on passerait bien à la.
Non, ce qui m'a beaucoup énervé aussi dans la dernière campagne, ce qui nous a tous énervé, c'est qu'on racontait n'importe quoi. Alors on dit, Internet, on va faire un premier usage, c'est une carte de visite. Les gens ne pourront plus dire n'importe quoi, sans dire que vous n'avez qu'à lire.
Et effectivement, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on pourrait aujourd'hui...
Deux, recruter, bien sûr, que les gens connaissent, qu'il y ait un... Alors Internet, c'est intéressant par ceux qui y ont recours, mais aussi par ceux qui en parlent aux autres. Ça dépasse de très loin celui qui est sur Internet. Celui qui est sur Internet aura tendance à en parler à d'autres, il communiquera avec d'autres internautes, il en parlera à des amis. C'est généralement un multiplicateur plus grand aujourd'hui que celui qui lit un journal.
Effectivement, on l'espère en tout cas. Pour finir là sur ces 10 minutes, est-ce que vous voulez qu'on vous interroge sur quelques thèmes forts, la sécurité, l'emploi, l'éducation, l'armée, l'environnement? Est-ce que vous voulez qu'on vous interroge sur des questions un petit peu plus personnelles qui vont peut-être permettre de mieux vous comprendre, mieux vous connaître au niveau des internautes? Et où est-ce que vous voulez utiliser ces 5-10 minutes pour faire passer vraiment votre message essentiel? Franck, avant ça, peut-être que je...
Non, je voudrais poser la même question.
Voilà, qu'est-ce que vous préférez pour... Parce que moi, j'aimerais bien...
Vous êtes trop gentil.
Non, mais oui.
Je suis pas habitué, donc je suis paralysé. C'est rare qu'on me dise ça.
Non, mais nous, on est pas là. On est là.
Non, mais c'est vrai.
On part du principe que les gens ne vous connaissent pas. On veut que les gens
vous connaissent.
Ne
vous connaissent pas du tout.
S'il faut qu'on soit un petit peu plus dur, on reviendra vous voir. C'est-à-dire, s'il faut, pour l'instant, on est au tout début de la campagne. Les sujets qu'on va traiter aujourd'hui.
Mais ça, de toute façon, ça n'apparaîtra que beaucoup plus tard, janvier. Ça,
effectivement. Donc, l'idée, c'est de faire connaissance avec vous. Alors, moi, j'avais quelques petites
questions. Je sais pas. Il y a les questions emploi, sécurité et tout ça. On en est très loin. Peut-être une question sur la sécurité, parce que tout le monde a parlé.
Le thème, hélas.
Donc, qu'est-ce que vous proposez? Parce que là, les candidats, à propos de tous ces thèmes généraux, moi d'ailleurs, je trouve ça un petit peu bizarre quand on me dit ou qu'on me pose comme question, qu'est-ce que vous comptez faire pour endiguer la sécurité? Moi, je me dis, putain, mec, faut qu'il réponde, il faut y aller, parce que c'est énorme, c'est vaste.
Oui, d'autant plus que ceux qui ont créé l'insécurité sont ceux maintenant qui parlent du programme de la sécurité. quand même un peu fort du café, puisqu'on parle de café.
De cette, cette nouvelle loi qui interdit les rassemblements dans les immeubles, est-ce que c'est d'après vous une loi qui est issue de...
Elle semble assez peu dirigée contre les terroristes.
Ouais, c'est ça.
Elle semble un peu tous azimuts, et on pourrait en faire n'importe quoi. Donc, il y a un danger. Il faut lutter contre le terrorisme. Ben Laden n'est probablement pas le maître à penser, l'auteur et le cerveau des attentats, mais il y a ces réseaux y ont été très certainement impliqués, et lui, probablement directement aussi. Donc, c'est bien de lutter contre le terrorisme. Mais utiliser la lutte contre le terrorisme pour créer toute une série de prétextes à restreindre les libertés publiques, non, absolument non. Et c'est ce qu'ils font.
Mais vous êtes d'accord que...
Aux États-Unis en particulier.
Bon, d'ailleurs, là aussi, vous vivez à Paris ou vous vivez où en temps normal ?
Je vis à Paris.
Vous vivez à Paris. Bon, vous prenez, je suppose, le métro, les transports en commun, ou vous circulez en voiture ?
Oui, c'est pas très rassurant de voir des militaires, des paras, ouais, avec un fusil mitrailleur qui me paraît pas la meilleure arme pour tirer dans une foule. Pas très rassurant.
Bon, mais la sécurité dans le métro, ça existe.
Oui, c'est nécessaire, mais pas avec des moyens adaptés.
Oui,
oui.
Oui,
bien sûr, non.
La violence verbale.
Ah, la sécurité est devenue un problème réel. Si vous voulez, si vous laissez les enfants jouer avec les Pokémon, si vous laissez 3 ou 4 heures devant une télévision dans laquelle ils finissent par voir la violence et la pornographie, surtout la violence, d'ailleurs, qui est beaucoup plus dangereuse.
Oui.
Donc, ils sont dans tout ça. Ils voient des choses, mais ils voient plus la différence entre le réel et le virtuel. Et on l'a vu aux États-Unis dans plusieurs cas où c'est clinique dans des enfants qui ne sont pas des enfants de milieux pauvres, des enfants de classe moyenne et même de classe moyenne supérieure. Donc vous voyez, peu à peu se crée une nouvelle forme de délinquance, beaucoup plus généralisée et beaucoup moins respectueuse des biens publics, parce qu'ils ont l'impression, ils voient la vie politique, ils voient la télévision, ils voient le monde autour d'eux. Et ils n'ont pas l'impression de valeur, de respect ou de dignité. Alors finalement, dans les quartiers, ça donne le respect, qui est le respect du territoire. Ce n'est même pas le respect de l'idée ou de la famille, c'est le respect du territoire.
Finalement, ce que vous dites, c'est que de toute façon, on ne va pas résoudre les problèmes d'insécurité, ni tous les autres d'ailleurs.
Par des mesures sécuritaires.
Non, et puis même, il n'y a pas une baguette magique.
Non, en gros, sûrement pas, ça prendra beaucoup de temps.
C'est ce que vous dites, effectivement, il faut prendre du temps.
Donc, et surtout, il faut développer ce qu'on n'a pas fait, les dispositifs de rattrapage dans l'éducation. À mon avis, pour cette fameuse délinquance des mineurs, qui devient de plus en plus importante et qui est un fait, c'est fondamental. C'est-à-dire de repérer dès la sixième et peut-être avant ceux qui ont des difficultés d'expression, de langage ou qui sont devenus des enfants eux-mêmes violents. Et les mettre en petits groupes. D'abord, à l'école elle-même. C'est-à-dire, soit en sixième, à hauteur de la sixième, pour les faire rattraper, si possible, le niveau, mais en les traitant vraiment avec leurs difficultés, et impliquer les parents. Donc, c'est scandaleux, par exemple, qu'en France, il n'y ait pas de bureau dans lequel les professeurs puissent recevoir les parents. Ils les reçoivent dans la salle de classe, et les parents, qui sont les parents d'enfants difficiles, ont souvent une mauvaise expérience d'éducation, ils sont dans la salle de classe, ils n'aiment pas ça, ou dans la salle des professeurs, ils aiment encore moins. Donc, il n'y a plus un lieu dans lequel puisse s'établir un rapport un peu égalitaire et vivant entre le parent et le professeur. Donc ça c'est une première chose, rattrapage. Ou alors on les fout dans les classes relais qui sont des classes dépotoires et c'est très mauvais. Il faut de vraies classes relais dont le but est de devenir très vite un dispositif de réintégration dans une classe normale, très vite. Après il y a ceux qu'il faut mettre à part. Et on a prévu des dispositifs, il y a à peu près 150 je crois, de centres d'éducation renforcée ou centres d'éducation hors le système habituel avec des éducateurs. 150, ça va faire à peu près, ça va toucher environ un millier d'adolescents. C'est pas assez. À mon avis, il faut plus et mettre plus d'efforts. Il faudra probablement 3 ou 4 fois plus d'éducateurs. Sans ça, ce que vous aurez, c'est tous les gens qui diront il faut faire sauter les textes de 45 et il faut pouvoir mettre en prison des enfants plus jeunes. Et ça, on voit une pression très très grande se développer autour de ça, qui est assez aberrante. Il faut s'en occuper de ces enfants plus jeunes, dans des dispositifs qui, dans certains cas, doivent être des dispositifs fermés ou semi-fermés, mais pour éduquer, pas pour taper. C'est comme excusez-moi de la comparaison, mais c'est comme mon chat. Si on lui tape dessus, ça lui apprend pas grand-chose. Si on est patient avec lui et on l'éduque, ben il adopte certains comportements humains. Bon, pour un être humain, c'est évidemment très différent. Un être humain très vite comprend l'attention qu'on lui donne, et je crois que ces gens qui deviennent délinquants ont besoin de cette attention. On se dit, si vous le faites à 15 ans, c'est beaucoup plus difficile que si vous le faites quand vous le repérez au pied de la tour, comme on dit, à 7, 8 ans, 9 ans. Et c'est là qu'il faut s'en occuper. Et impliquer les parents, parce que souvent les parents sont complètement démunis. Un père chômeur, une mère qui a 4 ou 5 enfants au foyer, il y en a toujours un ou deux qui vont traîner, et c'est ça le problème. Plus l'autre problème qui est celui de la violence. On n'aille pas se plaindre si on crée la violence avec la télé.
Trois, quatre petites questions pour, qui vont vous paraître anecdotiques, qui ne vont pas servir de conclusion. Je pense qu'on a, on a déjà en bande pas mal de trucs. La dépénalisation du cannabis.
Grande question. Je suis contre la dépénalisation du cannabis, mais je suis contre aussi qu'on applique des peines de prison, quelles qu'elles soient, pour ça. C'est-à-dire qu'il faut maintenir un texte de référence en disant qu'il y a un danger. Il faut prendre des mesures aussi contre l'alcoolisme, notamment l'alcoolisme au volant beaucoup plus sévère. Il faut être cohérent et je pense qu'il faut prendre aussi plus au sérieux l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Donc, mais après, dans le privé, les gens doivent pouvoir choisir leur niveau de vie. C'est comme pour les écologistes extrêmes qui sont pour le culte de la nature, qu'ils aillent dans la nature, moi ça me gêne pas, mais qui n'essayent pas de participer à la vie urbaine en ayant une attitude prosélyte. Voilà, c'est l'étude prosélyte qu'il faut éviter dans tous les domaines.
La question de la Corse, monsieur Cheminade, on n'en a pas parlé.
La question de la Corse, c'est que personne, aucun ministre de l'Intérieur, y compris monsieur Chevènement et monsieur Debray, n'a rien fait pour arrêter le lien entre mafia et soi-disant nationaliste ou antinationaliste ou Dieu sait quoi. C'est-à-dire qu'on a laissé continuer en Corse cette espèce d'ordre. Un peu de délit, un peu de vendetta et un peu de loi. Elle n'a rien fait pour lutter contre les formes plus développées qu'il prenait. Plus les armes qu'on se procure à l'étranger, tout ça. Il y en a, c'est la même chose que ces armes dont on s'étonne qu'il y a des armes dans les banlieues ou des armes en Corse. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour essayer de contrôler les choses, tant au niveau international qu'au niveau de notre pays? Si on avait fait une politique de développement des Balkans, si on avait fait une politique de développement des pays de l'Est, mais il n'y aurait pas le problème de la prostitution des femmes de pays de l'Est, il n'y aurait pas les trafics d'armes venus des Balkans ou de drogue. C'est la politique internationale, rejoint la politique intérieure.
En ce qui concerne la Corse, vous êtes plutôt pour une solution un petit peu plus autoritaire?
Non, parce que... je suis pour une... l'autorité de l'État contre les mafias, ça oui, ouais. Et en même temps, une ouverture. Moi, ça ne me scandalise pas que certains textes législatifs puissent être adapté à la situation de la Corse par l'Assemblée Corse. Ça ne me choque pas. Mais ce qui me choque, c'est qu'il y a un ordre républicain où les mafias ne doivent pas pouvoir faire ce qu'elles veulent, où on ne trouve jamais les assassins de qui que ce soit. Ça, oui, ça me choque. Et c'est sur ça qu'il faut dire aux nationalistes, vous n'êtes pas la majorité, vous avez peut-être de bonnes idées, mais vous n'êtes pas la majorité en Corse aujourd'hui. Appuyez au moins les terrains, les bases sur lesquelles on pourra décider démocratiquement ce qu'on veut faire en Corse. Mais évitons que toute qu'on laisse se développer toute cette espèce de d'exception dans le mauvais sens, dans le sens du banditisme et des mafias.
Très bien. Sur le une autre question, moi j'ai dans votre programme. Alors moi, la phrase n'est pas très claire. Houellebecq. Vous parlez de Houellebecq.
Mais
vous l'avez pas, vous l'aimez pas?
Ah non, c'est vraiment la provocation de bas niveau, ou de caniveau,
ah bon
plutôt, oui.
Vous pensez quoi, c'est un pornocrate, pornographe?
Non. Non, c'est pas ça. Encore, c'était ça, il serait naturel, mais il n'est pas naturel. Ce qui me choque chez lui, c'est l'absence absolue de naturel. Il est en train d'essayer de faire un moyen de gloriole, de gloire littéraire et d'argent, de choses qu'il a très bien profilées, sur lesquelles les gens réagiraient.
Vous voyez comme ça.
Ah ouais, le Coran, l'histoire du Coran, il n'a même pas lu. Mais il fait une provoque, parce qu'il sait que ça peut le... Il est acheté, là, maintenant. Ouais. C'est dans l'IB, d'aujourd'hui.
Moi, je le connais, donc je peux vous dire qu'il est naturel, que quand on le voit à la télé, je dirais qu'à la rigueur, il fait des efforts. C'est-à-dire qu'en privé, il est encore pire. Non, c'est pour ça que je dis, là, ça restera entre
nous. Encore pire, dans quel sens?
Bah, c'est-à-dire que quand vous dites, il y a un personnage à la télé qui prend 5 minutes entre chaque question, il a. Bon,
non, ça, c'est, ça, ça me gêne pas.
Il construit un personnage, non, non. Je suis pas sûr, je crois qu'il est comme ça.
Non, ce qui ne me gêne pas, et il le fait par provocation, il ne peut pas le dire naturellement,
non, mais moi, ce que
c'est
je
quand il parle du côté absolument légitime, nécessaire et voire moral de la prostitution, pas des mineurs bien sûr, mais des majeurs, puis on montre à la télévision l'endroit où il se promène à Pattaya, et bon, on voit des jeunes filles qui doivent avoir très certainement moins de 15 ans, c'est un peu gênant quand même.
Très bien.
Et pour la prostitution, et pour la prostitution mineure. Donc c'est... C'est ce côté, si vous voulez, cette relation. Aussi, ce qui est choquant, c'est l'individualisme. C'est-à-dire, moi, mon petit moi, revenu de tout.
Très bien. Autre question, on va finir par des petites questions comme ça, moi, qui sont passées au travers.
Quoi ?
Non, non, je ne suis pas fâché du tout. Moi, j'aime beaucoup l'écrivain, en fait. Il me semble que c'est un des seuls auteurs contemporains qui arrive à vous faire plonger dans une ambiance, une atmosphère. Pour moi, c'est un romancier, et je trouve que c'est l'erreur des gens de le comparer à un sociologue. C'est un
non, non, bien sûr.
Il fait du roman. Bon,
bref, on ne peut pas.
Vous basez sur la lecture de plateforme ou sur ce que vous en avez vu sur l'émission de Durand ou sur les lectures précédentes?
Un peu sur tout, non.
Sa poésie.
Sa poésie, je ne la connais pas. Donc, je ne peux pas me prononcer sur sa poésie. Je ne me prononce pas sur ce que je
fais. Son premier livre, L'extension du domaine de la lutte.
Et je ne le connais pas non plus.
C'est plus intéressant. C'est beaucoup plus intéressant.
Que plateforme, oui. Je pense qu'au début, il a dû faire des choses plus intéressantes qu'actuellement parce qu'il s'est adapté.
Plateforme n'est pas un très bon.
Mais je suis sûr qu'il s'est adapté en le faisant. C'est ça qui est le plus terrible, qu'il soit adapté. Qu'il soit isolé, en hurlant.
Alors c'est ça, c'est excellent. Contre question, vous êtes resté fidèle à votre système de pensée.
Celle-là ou celle-là? Oh, non, 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 mon système. Non, 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 non. J'essaye de changer ma pensée, la rendre un peu plus vivante chaque jour. J'espère en tout cas. Mais chez lui, non, c'est pas ça. C'est le nombril, c'est le nombril. Il est l'incarnation d'un personnage de Gombrowicz. Voilà. Si on veut parler littérature. Je sais pas si vous l'avez lu. Ferdidurk ou la pornographie.
Non.
Alors là, lisez la pornographie de Gombrowicz, qui est un livre très doué d'ailleurs, et vous verrez un côté de Houellebecq, mais alors fait à mon avis par Gombrowicz de façon beaucoup plus littéraire et beaucoup plus réussie.
Bon, une question gadget, alors c'est quoi votre roman préféré?
Mon roman préféré? Je peux vous dire.
Pas un grand lecteur de roman?
Oui et non. C'est-à-dire. Si on parlait de romans préférés, moi ça me vient, les choses préférées ça me gêne. Je peux vous dire, le dernier que je viens de lire et qui m'a beaucoup intéressé, bien qu'il y ait des faiblesses dans la vision, dans la conception de l'auteur, que je n'avais jamais lu, et je me suis tapé les 2000 et quelques pages, c'est L'homme sans qualité de Robert Musil. Je dirais que c'est plutôt L'homme sans particularité. Et dans ce roman, moi ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la tentative, en partie ratée, en partie réussie, de présenter à partir de personnages et en mêlant le roman, les citations, les thèses, l'essai, de présenter la chute au début du XXe siècle d'un empire comme celui qui était la Cacanie, c'est-à-dire roi et prince, l'Autriche-Hongrie. Et quand on le lit, et c'est là qu'il y a le don de l'auteur, et ça rappelle terriblement notre époque. On voit dans cette Autriche-Hongrie qui est en train de s'enfoncer assez brillamment avec beaucoup de paillettes et d'or et de mouvements, on voit un peu des choses semblables à celles de notre époque, à notre époque de façon beaucoup plus grande, à beaucoup plus grande échelle, de façon un peu plus vulgaire dans l'Autriche-Hongrie de cette époque, mais il y a un côté de système qui n'arrive pas à créer son avenir, à créer une substance vivante pour les autres, et qui est en train de tourner en rond, un peu comme l'argent tourne en rond aujourd'hui sans se poser quelque part, comme une sorte de papillon affolé.
Bon, donc on ne vous fera pas de questionnaire Ardisson. Hein.
C'est-à-dire vous savez, pas trop, non.
Tout le monde en parle.
Un peu, j'ai regardé une seule fois.
Ça, c'est...
Je ne suis pas très média.
Ceux qui seraient ravis de vous recevoir, c'est Ardisson.
Je sais pas, il faudrait qu'il renonce à ses préjugés sur moi,
probablement. Je poserais d'autres questions beaucoup plus
justes. Allez-y, allez-y.
Que les autres.
Allez-y.
Moi, j'en ai deux. Après, peut-être qu'il y en a d'autres. J'en ai que deux. Après, j'ai terminé. Oh. Qui sont deux complètement différentes. La première, c'est qui est Lyndon LaRouche, que vous présentez comme votre ami, comme peut-être quelqu'un qui...
C'est probablement l'homme... L'homme qui... Si, si, aux États-Unis, en Russie, il est connu. C'est l'homme dont on a probablement dit le plus de mal et qu'on a traité de la façon la plus injuste du XXe siècle. C'est un homme, c'est un esprit extrêmement créateur, qui pense toujours plusieurs années en avance et qui s'est présenté plusieurs fois, a présenté plusieurs fois sa candidature à l'élection américaine, donc on se moquera de moi en disant que je fais la même chose en France, mais qui a amené une série d'idées sur le plan général sur nos sociétés qui pour moi a été extraordinaire. C'est un homme qui a changé ma vie, vraiment. Parce que sur un certain nombre de... C'est, par exemple, dans les années 70, c'est quelqu'un que j'ai entendu dire que la politique de la drogue, c'était pas les familles, c'était pas une question morale, ça allait devenir une question de domination dans l'ordre politique et dans l'ordre financier et monétaire. Ça allait devenir un instrument de pouvoir, de destruction des sociétés. Et là, aujourd'hui, on y est. Mais dans les années 70, c'était beaucoup moins clair de le dire. C'est quelqu'un qui a dit il y a deux problèmes dans la guerre du Vietnam. Le premier, c'est la guerre du Vietnam, qui est injuste, atroce, injustifiable, d'un point de vue, qu'on n'aurait jamais dû faire. Et l'autre, c'est l'opposition à la guerre du Vietnam. C'est-à-dire que l'opposition n'est pas venue pour un contre-projet, mais elle est venue par une certaine peur de la guerre, qui a été manipulée par les gens en place aux États-Unis, dans une espèce de sous-culture de la fuite devant l'espace politique. Et en effet, on a créé ce que lui appelle les baby-boomers, et qui en France sont les 68ards, qui ont fini par s'incruster dans l'arrivisme, ou d'autres les plus honnêtes, souvent par mourir.
Qu'est-ce qu'il fait Lyndon LaRouche aujourd'hui ?
Il est en Allemagne, il se présente à 80 ans pour les élections présidentielles américaines en 2004, et il dit « je me sens plus jeune que tous les autres ».
Dernière question, en ce qui me concerne, vous allez voter qui au deuxième tour ?
Pour moi-même. C'est la première réponse. Hein. La deuxième, c'est que si j'y suis pas, je serais bien embêté. Je voterai, je peux dire, je voterai certainement pas pour Chirac. J'aurais du mal à voter pour Jospin.
Oui. Lorsqu'on poursuit un peu sur Lyndon LaRouche, quand on va chercher un peu d'informations sur vous sur Internet, vous êtes, je suppose que vous l'avez fait. Vous savez ce qui se dit sur vous.
C'est pas Internet. Hein. On m'a cogné à coups de bâton pendant toute la présidentielle sur ça, donc de façon ignoble. Par exemple, je veux vous dire que sur France 2 à l'époque, ils ont passé un programme disant, vous savez bien que Lyndon LaRouche, et vous êtes dans son mouvement, c'est votre ami, etc. Et néo-nazi, antisémite, extrême droite, et tout ça. Il aurait sorti tout. Bon, homophobe, tout est sorti. Or, ils avaient envoyé une équipe interviewer LaRouche aux États-Unis, ce qui prouve qu'on a de l'argent à gâcher sur la télévision publique, ou pas. Enfin, à la fin de l'histoire montre que c'est de l'argent à gâcher. Ils l'ont interviewé pendant 20 minutes, il n'a pas répondu du tout au profil, comme ils disent, entre guillemets. Ils n'ont rien passé sauf une photo de lui. C'est scandaleux quand même.
La question des étranges, c'est que pour nous.
Pourquoi toutes ces accusations ?
Ouais,
parce que ce qu'on accusait sous McCarthy d'être communiste, aujourd'hui, à l'époque, aux États-Unis, on accusait l'extrême droite. Ça, c'est fini aux États-Unis. LaRouche n'est plus accusé de cette manière. On est très embêté parce que. Il a eu des positions qui. Et une amitié, par exemple, avec Eugene McCarthy. Eugene McCarthy, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'autre McCarthy, c'est celui qui s'est opposé à la guerre du Vietnam et qui a été le candidat de la gauche démocrate. Et voilà que McCarthy écrit dans le journal de LaRouche aux États-Unis, et voilà que LaRouche est ami des gens qui venaient du mouvement de Martin Luther King et du proche entourage de Martin Luther King. La personne, par exemple, qui a reçu Martin Luther King en Alabama, à Selma, qui s'appelle Amelia Robinson, est quelqu'un qui est maintenant une amie proche de LaRouche, qui participe à ses réunions aux États-Unis. Donc voilà que cet homme, d'extrême droite, raciste, antisémite, homophobe, je ne sais pas quoi, se retrouve avec le mouvement de Martin Luther King, mais ça ne colle plus. Où j'ai une autre histoire qu'on vient de me raconter récemment, qui est drôle. C'était un des dirigeants, parce que LaRouche au moment où l'épidémie de sida a éclaté, il a dit qu'il faut prendre des mesures de santé publique, c'est-à-dire probablement des mesures d'isolement relatif et de traitement dans les appartements, hein, en ville, et traiter ces gens, investir des sommes énormes pour les traiter. Et à l'époque, aux États-Unis, il ne faut pas rien faire de tout ça, il faut laisser tout ça se dérouler, et tout ça c'est répressif, c'est anti-individuel, etc. Et maintenant, vous avez un des dirigeants du mouvement des homosexuels de Californie qui a rencontré un ami qui était là-bas et qui lui a dit « Mais si on avait appliqué les mesures de la rouge, on aurait sauvé les homosexuels, le mouvement des homosexuels, ils ne seraient pas morts. » C'est-à-dire qu'ils ne seraient pas morts, ils seraient morts, peut-être une grande partie d'entre eux, mais en survivant 10 ou 15 ans. Parce que l'histoire sur les trithérapies, on sait depuis beaucoup plus longtemps qu'on pourrait les appliquer et qu'on pouvait prolonger la durée de vie. Et c'est une question de fric pour laquelle on ne l'a pas fait. Et à mon avis, encore plus, on a voulu créer une peur générale vis-à-vis de la sexualité, probablement, de la vie publique, et pour pouvoir... mais tout en faisant rien. C'est-à-dire qu'on a créé ça, mais on n'a rien fait en même temps. On n'a pas pris aucune mesure. Donc c'était purement dans l'idée, au bout d'un certain temps, de profiter de la situation et créer un climat répressif. Plus,
ouais.
Beaucoup plus grave, l'Afrique. Rien pour l'Afrique. Rien des produits pharmaceutiques, rien. Ils n'ont rien, ils n'ont accès à rien. On s'en fout. Et on pense qu'ils crèvent. Parce que de toute façon, dans ce milieu-là, où il y a une conduite malthusienne, on pense que les pays du Sud, ben, il faut quelque part continuer le triage. Une des raisons pour lesquelles je fais ce que je fais, c'est parce que j'ai lu un New York Times, c'était en février 1975. J'ai lu un New York Times de février 1975 sur le Club de Rome. C'était le supplément du dimanche. J'ai un dimanche dans mon appartement à New York, puisque j'étais à New York à ce moment-là, et je lisais le New York Times. Et j'ai vu ça. J'étais ahuri. En première page, on voyait une tranchée de la Première Guerre mondiale en disant « triage ». Dans la Première Guerre mondiale, on éliminait ceux qui étaient blessés, sans le dire. C'était affreux. Et on disait, est-ce qu'il ne faudra pas recommencer ? Et la question était posée en première page. Puis on tournait à l'intérieur et on évoquait l'éthique du canot de sauvetage. L'éthique du canot de sauvetage, c'est la terre. Il est trop plein. Et pour sauver tout le monde, il faut en jeter à l'eau. On disait, peut-être qu'il faudra le faire. Et on montrait une femme en train de crever en Éthiopie en disant, n'est-ce pas une conséquence logique des choses aujourd'hui ? Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais il y a des gens qui ont un projet malthusien, un projet d'élimination de population en tête. Et la façon dont c'était dit, la façon dont c'était présenté, en France, ça ne sortait pas à l'époque, même aujourd'hui, ça ne sortirait pas. Pardon ? Oui, mais Cousteau, c'est une réduction de population, mais il n'y avait pas le raisonnement avec. Oui, le commandant Cousteau avait dit à un certain moment qu'il faudrait réduire la population entre 700 millions et 1 milliard. D'hommes. Donc cette idée qu'une réduction de population permettrait à tout le monde de mieux vivre. Et pour moi, ce n'est pas du tout vrai. La signature de l'histoire humaine, c'était une possibilité d'aménager son environnement, d'agir sur la nature, de la transformer, pour être plus et vivre mieux. Et c'est ce qu'on a pu faire dans l'histoire, à condition d'être responsable de l'avenir et d'agir en fonction des générations futures. Et là, sur celle-là, les écologistes actuels ont raison, c'est-à-dire qu'il faut penser aux générations futures, mais agir par rapport à cette pensée, pas dire que la Terre fera pour nous.
Là, c'est ce que vous proposez avec l'espace, et à la rigueur, on pourra très bien.
Voilà,
entre autres,
et à un moment.
Votre site explique tout ça.
À un moment, on ira dans l'espace, je suis convaincu, si les humains continuent, si l'espèce humaine continue, on ira dans l'espace, parce que. Une des caractéristiques que nous avons, c'est d'être curieux. Et c'est pour ça que je dis, si en politique, il y a une chose qu'il faut faire, c'est encourager les gens à se mêler à ce qu'ils ne les regardent pas. Mêler ce qu'ils les regardent, c'est trop facile. Ils se mêlent à ce qu'ils ne les regardent pas, d'abord. Et ensuite, l'espace, parce qu'ils voient quelque chose. On voit quelque chose qui est plus loin, qu'on pourrait connaître, et on voudra toujours y aller. Et le jour où on renoncera à y aller, ou à essayer de le connaître, on renoncera à quelque chose qui fait notre essence même, qui fait qu'on existe. C'est le jour où on renoncera à développer le tiers-monde, et on est en train, sur l'Afrique, on entend des choses abominables aujourd'hui. De toute façon, on n'y rêvera jamais avec ces gens-là, et tout ça, blablabla. Tout ce discours-là, c'est la fin de l'homme. Et vous avez encore une chose encore plus abominable, qui est tous les paléontologues, anthropologues, et tout ça, qui sont des gens généralement un peu bizarres, qui viennent vous dire oui, aujourd'hui on ne sait plus la différence entre l'homme et l'animal. J'ai beaucoup de sympathie pour les singes bonobos, mes amis le savent, j'aime bien, c'est des types vraiment sympas. Je ne pourrais certainement pas tirer sur un singe bonobo ou faire du mal à un singe bonobo. Il y a quelque chose de très sympathique dans le singe bonobo. Bon, il fait des outils, c'est vrai, il a des réserves d'outils, on a pu prouver au moins 100 ans, peut-être 400. Il y a toute une vie sociale de l'animal qui existe, sans le moindre doute. Mais il y a une chose que l'animal ne peut pas faire, c'est d'être responsable pour son environnement et responsable pour l'avenir. Il n'a pas de projet et il n'a pas d'économie. Et ça se traduit dans les outils. Il peut faire un outil en cassant, il ne peut pas le reproduire, il ne peut pas non plus faire une action sur l'action. C'est-à-dire qu'il ne peut pas penser à son outil de façon abstraite, à titre de projet, et faire une retouche sur lui. Et le premier outil humain, qui est le biface, a été fait avec cette idée de retouche, d'action sur l'action. C'est-à-dire d'action au carré. On pense à l'action qu'on a faite, et on a une conscience de ce qu'on fait. Bon. Ces gens-là sont plus capables de le voir. Ils sont plus capables de voir un homme responsable et défini par cette responsabilité du monde à venir. Pire, ils vous diront, si vous voulez avoir cette responsabilité, vous êtes au mieux une personnalité autoritaire, au pire un fasciste. Parce que dire que vous pouvez avoir responsable de l'avenir, avoir des idées sur l'avenir, d'avoir un projet, ça c'est totalitaire. Et aujourd'hui, il y a cette idéologie qui s'est propagée et qui est une idéologie qui est une idéologie de démobilisation et de doute sur l'homme. Et moi, je ne doute pas sur l'homme. Je doute sur un homme qu'on abandonne. Je doute sur l'homme quand des gens qui ont été éduqués, qui ont une certaine responsabilité sociale donnée par l'éducation à l'origine, comme Michel Houellebecq, quand ces hommes-là perdent l'espérance dans l'homme et parlent de ce qu'ils voient immédiatement, ou de ce qui est devant leur nez en choisissant ce qui est souvent le moins bon, et ne voient pas l'avenir, ne voient pas ce qu'il faut faire pour un avenir de l'homme, ne voient pas, ou ne veulent pas voir, ou n'en parlent pas. Alors c'est très difficile, parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Si vous voulez faire de bons sentiments, on dit vous faites de la mauvaise littérature. C'est pas vrai. On doit, dans la bonne littérature, montrer, à mon sens, comme on fait dans le bon théâtre, comme fait Shakespeare, montrer comment une société entière, représentée par certains individus, est devenue incapable d'assurer son propre avenir. Et vous qui êtes spectateur, vous dites, mais c'est affreux, moi si j'étais là, j'aurais peut-être fait différemment. Ou c'est affreux, pourquoi ils font ça? Et vous pouvez commencer à vous interroger sur vos propres manières de penser, et là, vous avez un grand artiste ou un grand auteur. Quand vous interrogez sur votre propre manière de penser, et vous vous dites, est-ce que ce que Schiller, le poète allemand, appelle le sublime, est possible ou pas? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez vous dévouer pour une grande cause? Est-ce que vous pouvez mourir pour cette grande cause à un certain moment de votre vie? Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Et aujourd'hui, les gens, je suis sûr, dans leur immense majorité, diront non, ça ne vaut pas la peine. On ne peut pas. Et alors, on a leurré au nom des grandes causes. La grande boucherie de la Première Guerre mondiale, c'est ça, c'est vrai. Et les gens disent, oui, mais quand il y a une grande cause, c'est toujours un leurre. On vous entraîne toujours avec de belles idées à vous faire casser la gueule pour des causes indues ou atroces, encore plus atroces. Regardez les mots du XXe siècle. Ah, comment vous pouvez savoir la différence? C'est là que l'être humain intervient. C'est quand... C'est l'idée de création. C'est-à-dire, quand est-ce qu'il y a création? C'est quand les choses, vous voyez, comme d'habitude, ça ne marche plus. Et vous avez un paradoxe. Vous dites, il y a un fait nouveau, et vous, ça ne marche plus, comme le système financier et monétaire international aujourd'hui. Et vous dites, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle hypothèse doit-on faire pour remplacer ce qui ne marche plus par quelque chose qui marche? Et ça, c'est une chose qu'il n'y a pas du tout dans l'enseignement français, pour revenir à l'éducation. Dans l'enseignement français, des formules, des théorèmes, des QCM, c'est encore pire, et on fait de vous une espèce d'instrument qui répond mécaniquement à un ensemble de choses. Et on ne fait plus de vous un créateur, ou alors, de l'autre côté, c'est le professeur complaisant qui dit aux élèves, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui, comment ça se passe, que ça va bien, qui ne marche pas non plus. Mais vous n'avez plus cette réaction de création. Et j'ai même vu un élève et un professeur me dire, mais l'enseignement, c'est totalitaire par nature. Parce qu'il y en a un qui sait, l'autre qui ne sait pas. Moi, ce n'est pas vrai, il n'y en a pas un qui sait, l'autre qui ne sait pas. Il y en a deux qui cherchent à savoir. Très différent.
Vous voulez ajouter quelque chose, conclure, dire un petit mot? Moi, je pense qu'on l'a trouvé. S'il y avait un truc que vous voulez dire, nous, si on va faire une petite présentation, pas une phrase vraiment qui vous tient à cœur, un argument que vous voyez peut-être... Parce qu'après, on va couper.
Je dirais, j'espère que ma campagne présidentielle, c'est-à-dire pas moi, mes idées, réveilleront, redonneront aux Français le sens de la discussion publique socratique.
Merci beaucoup, M. Cheminade.
Merci à vous.
Non, beaucoup à couper.
Quoi ?
Il n'aime pas couper, quand même.
Non. Moi non plus, alors là on est bien d'accord. Même un mauvais article, j'ai scrupule à couper. Il y en a des gens qui aiment couper. Moi je ne sais pas.
Il y a des gens qui aiment jeter.
J'avais fait un personnage de la femme française quand ça ne va pas. L'homme, c'est monsieur donne le son. Et la femme, c'est madame coupe-couille. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui aime couper.
C'est ça, daté d'aujourd'hui.
Oh, bah, c'est extraordinaire.
Il manque le point d'interrogation. Mais bon.
Hein? Ah oui. Bah.
Vous allez le vendre? Oui, 18 francs.
Ah oui, c'est vendu.
Vous nous le donnez?
Oui. Les médias bénéficient de notre.
Vous le vendez où? Vous le vendez où?
Dans la salle de Paris, il y a des abonnements.
Vous le tenez au courant si un jour vous
1500 abonnés.
Belle réunion.
Oui, d'accord.
Vous avez un petit mot, vous m'appelez?
Mais donc, vos militants, votre parti, ça serait dans quoi comme masse?
Peu. Ça représente ces 1500 abonnés au journal. Ça représente, disons, des gens actifs à peu près 500-600 en France, je dirais. Et les militants à temps quasi plein ou plein, une cinquantaine. Alors ça, c'est pas mal, déjà. Et très formés. Donc, des gens qui sont capable de présenter mes idées comme moi. Donc, c'est pas les militants qui viennent répéter ce qu'on leur a dit de dire. Les ouvrières, elles sont très militants, mais peut-être qu'on vient de leur dire, par exemple, français à ça.
Non, n'importe qui s'arrête et rencontre quelqu'un qu'on a dans la rue, devant une station de métro, et ils sont surpris. Ils disent, oui, mais bon, c'est clair que c'est pas une cassette, quoi. C'est,
comment
vous savez vraiment de quoi vous parlez.
Non, je veux dire, comment la question du français qui est au fond de sa tête, surtout lorsqu'il est un peu Enfin, c'est comment il dit, comment ça se fait que vous êtes si dégueulasse, si mal foutu, et que vous sachiez tant de choses, c'est pas possible. Et c'est ça qui est terrible, c'est côté court qui est dans la tête des gens. Mais ils sont impressionnés par le savoir.
C'est un petit peu normal.
Non, parce que.
Si, parce que par rapport à ce que vous dites sur la culture superficielle de la télévision, dans laquelle éventuellement nous-mêmes pourrons avoir été pris au piège, même si on fait des efforts.
Pas l'air trop naïf.
Non, mais vous tenez. Quoique. Non, mais vous tenez un discours.
Vous tous naïfs, c'est une qualité.
Vous tenez un discours qui est en train d'histoire et tout ça, et effectivement, peut-être qu'au niveau des jeunes, bon, quand vous arrivez à leur parler, à leur raconter ces histoires, parce que ça leur.
Ah non, ils aiment ça. Ils aiment ça.
Ça les charme. Et c'est le principe des transmissions de savoir.
Et ça n'a aucun intérêt si après ça, vous ne lisez pas. Vous voyez pas, vous n'allez pas chercher par vous-même. Si vous ne faites pas la démarche par vous-même, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'il faut après que vous veniez en disant je ne suis pas d'accord sur ci, je ne suis pas d'accord sur ça. Pas pour prendre défaut, parce que c'est stupide, mais pour voir si j'ai des réponses ou pas. Il y a des cas où je n'en aurai pas, c'est bon. C'est là que le vrai bon professeur, à mon avis, c'est celui auquel les élèves finissent par poser des questions qu'ils ne peuvent pas répondre. Ça, c'est ce qu'il a bien fait.
C'est apprendre à poser une question.
Oui. Ah oui, non, c'est tout est dans la question. Socrate, là. Et en même temps, c'est que vite trouver sur Platon. C'est la pire chose.
Bon,
vous avez lu
Platon? Hein? Moi, j'ai lu très peu Platon à l'école, quoi. Pas plus.
Tu apprends, je pense.
Le pied. Qui est le premier, le plus simple.
Merci.
C'est celui qui est
commencé. Moi, qui est pas mal, il est pas mal. Je vous laisse.
Je fais ma petite voix. Mais on vous reposera peut-être quelques questions par email, en tout cas.
Je pense que ça prend, en fait.
Oui.
Mais là, vous passez combien de temps?
Cinq
minutes.
Oui, on va être obligé de faire du.
Ça dépend. On ne sait pas.
On ne sait pas. On vous montrera de toute façon.
Mais ça va marcher comment? Il y aura, ce sera comme la galerie là. Tous les 8 candidats ou qui aura.
Ah non, on va faire un site très très dynamique.
Non, ça va être très très différent de ce qu'on a pu
voir. On va faire un site internet qui risque de faire un petit peu de bruit dans le milieu de cette campagne. Les gens, les hommes politiques et les médias disent que l'internet va jouer un rôle important. Moi, j'en suis pas convaincu.
Moi non plus, mais je crois qu'en 10 ans, ils le croient pas tellement.
Et en plus, ils le croient pas.
Ils le disent pour faire bien.
Par contre, nous, c'est sûr qu'on va faire un peu de plus. Bon, on va
va donner la parole à des gens, on va aller interroger des militants, il va y avoir de la vidéo, il va y avoir des jeux, du divertissement.
Des chansons.
C'est pas votre...
C'est marrant.
C'est pas vraiment votre tasse de thé de divertissement, bon, mais...
Si, on va faire un jeu qui va vous plaire, ça
va. Non, je suis pas concis.
On vous donne un scoop. Vous voulez ? On va faire un jeu qui s'appelle Présibourse, qui est une parodie de la bourse avec les candidats, qui va permettre peut-être de mettre un petit peu en avant le côté dérision de l'argent... investi en
la spéculation, les sondages, c'est bon.
Et qui va marcher techniquement, qui marche déjà et qui risque de faire un petit peu de bruit aussi. On va faire des trucs comme ça. Et en même temps, faire de l'information.
L'information.
Mais voilà, vous voyez comment on vous parle et on n'a pas fait d'école de journalisme et machin. Non, on essaye de faire vivre. On s'intéresse.
Je crois que c'est plutôt une qualité.
L'école
de journalisme, c'est vraiment.
Oui, en tout cas, donner. Partir en tout cas pour tous les candidats sur un pied d'égalité, donner une tribune ouverte à tout le monde, s'intéresser aussi aux militants, donc on pourrait être amené à se revoir pour voir qui sont les gens avec qui vous entrez en campagne. Le côté vraiment, politique de terrain, quoi. Donner la parole aux petits élus, aux militants, à l'électeur, voilà, c'est notre ambition. Et en même temps, traiter ça avec
un peu d'humour quand même, parce que moi je suis, si vous voulez, la politique spectacle, on la condamne, mais moi j'ai envie de, moi j'ai dit ok, mais maintenant on peut plus revenir en arrière.
Celui qui m'a le plus choqué dans la campagne, c'était dans l'événement du jeudi, pour mon cas, c'était Albert Duroy. Il a dit, c'est épouvantable, ce minage, c'est un con, c'est un médiocre, c'est un farce, c'est n'importe quoi, il n'avait rien lu. Et bon, ça je m'en fous, il dit, enfin je m'en fous pas, mais bon, c'est la chanson habituelle à l'époque. Il est con parmi les autres, bon, tant pis pour lui. Mais après, il disait, le pire, c'est les maires qui ont signé pour lui. Et il faut les repérer, et il faut que les électeurs les fassent battre. On ne peut pas écrire ça. On n'a pas le droit. J'ai moi, il pouvait écrire ce qu'il voulait. Mais vis-à-vis des maires, non.
C'est pas bien.
Ça, c'est pas bien. C'est vraiment le...
Ouais, c'est vrai. Mais les gens...
C'est le thème de la vengeance.
Mais vous avez dû leur faire un truc, journaliste, c'était pas possible.
Rien, non, à eux, rien. Au contraire, même avec certains que j'ai vus et que je peux parler plus longtemps, ils avaient plutôt de la sympathie au bout d'un moment. Mais il y avait le truc qui venait de la calomnie américaine, et le petit qui voulait jouer dans la cour des grands, l'inattendu. Et l'inattendu, ça ne leur plaît pas.
Mais vous,
parce qu'ils ont leur catégorie,
si vous avez une émission de télé, un jour vous passez sur une émission de télé ou une émission à radio, vous nous tenez au courant parce qu'il y aura aussi un agenda.
Parce qu'on peut vous faire voir. Qu'en gros, on peut faire voir que vous amusez, je ne sais pas si ça vous amuse, mais c'est la cassette sur les précédentes élections.
Ah, bah ça, c'est bon ça.
Oui, on a une cassette à votre disposition.
N'en faites pas usage. Si, si,
on peut même en faire usage. Nous, si vous nous donnez des cassettes.
On fait tourner.
L'épisode avec Caméroux, quand même intéressant, parce que Jean était le premier à dénoncer la cité de Londres en 1995. Il nous disait que c'était pas chic de faire ça. Aujourd'hui, le rapport Montebourg, et maintenant tout le monde le dit.
C'est vrai, Londres a accueilli les terroristes, les a manipulés. C'est classique, le Colonial Office anglais l'a fait tout le temps.
Bon, on se tient au courant. Allez, on y va. Merci, monsieur Cheminade. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Merci. Au revoir. Au revoir.
Mais pas trop.
Non, je vous prie.
Couper avec eux.
Bon courage, bonne journée.
Merci pour votre travail.
Merci.
Au revoir.
Ça va, je suis en main.
À la prochaine fois.
Au revoir. Je ne coupe jamais.
C'est long.
Hein ?
Oui. C'est long.
Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quand est-ce qu'on va voir Jean-Marie. Parce que du coup, je serai peut-être pas au Brésil. On peut pas aller voir Jean-Marie. C'est quand je parle. Bah, attends. Ah bah, on va, tu peux.